Chapitre 3. En entrant un jour dans le cabinet de Barbe en son absence, Lavretsky vit à terre un petit papier soigneusement plié. Il le ramassa, le déplia machinalement et lut les lignes suivantes écrites en français. « Betty, mon cher ange, je ne puis me décider à te nommer ni Barbe ni Varvara. Je t'ai attendu en vain au coin du boulevard. Viens demain à 1h30 dans notre petit logement. À cette heure-là, ton gros bonhomme de mari est ordinairement absorbé dans ses livres. Nous chanterons de nouveau cette romance de votre poète Pouchkine que tu m'as apprise, vieux mari, mari farouche, 1000 baisers sur tes mains et tes jolis pieds. Je t'attends, Ernest. » Lavretsky ne comprit pas tout d'abord ce qu'il avait lu. Il le lut une seconde fois et la tête lui tourna. Il sentait le parquet se dérober sous ses pieds comme le pont d'un vaisseau ballotté par les vagues. Tout à coup, il poussa un cri, il étouffait, des larmes jaillirent de ses yeux. Sa raison s'égarait. Il avait en sa femme une confiance si absolue. L'idée qu'elle pouvait le tromper ne s'était jamais présentée à son esprit. C'était Ernest, l'amant de sa femme, un joli blondin de 23 ans, était, avec ses petites moustaches et son nez retroussé, l'être le plus nul de toutes ses connaissances. Quelques minutes, une demi-heure peut-être, se passèrent ainsi. Lavretsky se tenait toujours à la même place, froissant dans sa main le fatal billet et fixant à terre un regard éperdu. Il lui semblait voir, à travers un sombre tourbillon, tournoyer de pâles figures. Il se sentait défaillir, le sol fuyait sous ses pieds, et il se sentait glisser dans un abîme. Le frôlement bien connu d'une robe de soie le tira de sa torpeur. Varvara Pavlovna, coiffée de son chapeau et son châle sur les épaules, rentrait précipitamment de la promenade. Lavretsky tressaillit et s'enfuit. Il sentait qu'en ce moment, il était incapable de la déchirer, de l'assommer avec la rage d'un moujik, de l'étrangler de ses propres mains. Varvara Pavlovna, toute surprise, voulut l'arrêter. Il put à peine murmurer « Betty » et se précipita hors de la maison. Lavretsky se jeta dans une voiture et se fit conduire hors de la ville. Il erra le reste du jour et toute la nuit jusqu'au matin, s'arrêtant sans cesse et se tordant les mains. Tantôt il était comme fou, tantôt il éprouvait des accès d'absurde gaieté. Vers le matin, se sentant pénétré par le froid, il entra dans une méchante auberge de faubourg, demanda une chambre et s'assit auprès d'une fenêtre. Un bâillement nerveux le saisit. Il pouvait à peine se tenir sur ses jambes et ne sentait pas la fatigue, bien que son corps en fût accablé. Il restait assis, regardait devant lui et ne comprenait rien. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, pourquoi il se trouvait seul, les membres engourdis, la bouche amère, la poitrine oppressée, dans une chambre vide et inconnue. Il ne comprenait pas ce qui avait pu l'apporter, elle, Savarinka, à se donner à ce faquin, et comment elle avait pu, se sentant coupable, affecter ce calme, lui prodiguer les mêmes caresses, lui témoigner la même confiance. « Je n'y comprends rien, » murmurait ses lèvres desséchées. « Oh, que sais-je si déjà, à Pétersbourg ?» Et il s'interrompait, et il se remettait à bâiller en frissonnant, en allongeant ses membres. Les souvenirs riants ou tristes le torturaient également. Il se rappelait tout à coup que, peu de jours auparavant, elle s'était mise au piano en présence d'Ernest, et sous ses propres yeux, et qu'elle avait chanté, vieux mari, mari farouche. Il se rappelait l'expression de son visage, l'éclat étrange de ses yeux, la rougeur de ses joues, et il se soulevait de sa chaise, voulait courir vers eux et leur dire « Oh, vous avez eu le tort de jouer avec moi !» Mon aïeul était impitoyable avec ses paysans, et mon grand-père était paysan lui-même. Oh, puis il les aurait immolés tous les deux. Il lui semblait ensuite que tout ce qui lui arrivait était un rêve, une folle hallucination, qu'il n'avait qu'à se secouer, qu'à regarder autour de lui pour la faire évanouir. Mais le chagrin s'enfonçait de plus en plus dans son cœur, comme la serre du vautour dans les chairs de sa proie. Pour comble de malheur, Lavretsky, dans quelques mois, espérait être père. Le passé, l'avenir, toute sa vie étaient empoisonnés. Il rentra enfin dans Paris, descendit dans un hôtel et envoya à Varvara Pavlovna le billet de M. Ernest avec la lettre suivante. Le petit papier ci-joint vous expliquera tout. À ce propos, je me permettrai de vous dire que je n'ai pas reconnu votre prudence habituelle. Peut-on laisser traîner des papiers de cette importance ? Cette phrase, le pauvre Lavretsky l'avait préparée et caressée pendant plusieurs heures. Je ne puis plus vous revoir. Je ne crois pas que vous le désiriez plus que moi. Je vous fixe 15 000 francs de pension. Je ne puis vous donner davantage. Envoyez votre adresse à la caisse de mes biens. Faites ce que vous voulez, vivez où bon vous semblera. Soyez heureuse, une réponse serait inutile. Tout en disant à sa femme de ne pas lui écrire, Lavretsky attendait avec anxiété une réponse qui lui expliqua cette étrange aventure. Barbe lui expédia le même jour une longue lettre écrite en français qui lui porta le dernier coup. Les dettes doutes qui lui restaient s'évanouirent et il eut honte d'en avoir conservé. Varvara Pavlovna ne se justifiait pas. Elle désirait seulement le voir et le suppliait de ne pas la condamner d'une manière irrévocable. La lettre était froide et guindée, quoiqu'on vit en plusieurs endroits des traces de larmes. Lavretsky sourit amèrement et fit répondre par le messager que c'était bien. 3 jours après, il n'était plus à Paris. Mais au lieu de retourner en Russie, il avait pris le chemin de l'Italie. Lui-même ne savait pas pourquoi il avait choisi cette contrée plutôt qu'une autre. Que lui importait le lieu pourvu qu'il n'eût pas à retourner chez lui ? Il envoya à son intendant des ordres concernant la pension de sa femme, lui enjoignant en même temps de recevoir aussitôt, des mains du général Korobine, la direction de toutes ses affaires, sans attendre que ses comptes fussent rendus, et de prendre ses mesures pour le départ de son Excellence. Il se représentait le trouble, la dignité blessée du général congédié, et en dépit de son propre malheur, il en éprouvait une sorte de joie haineuse. Il écrivit aussi à Glafira Petrovna, la priant de retourner à Lavriki, et lui envoya une procuration. Mais Glafira Petrovna ne retourna pas à Lavriki et fit publier elle-même dans les journaux que la procuration était nulle et non avenue, ce qui du reste était complètement inutile. Retiré dans une petite ville d'Italie, Lavretsky ne put renoncer à suivre les mouvements de sa femme. Les journaux lui apprirent que, suivant son ancien projet, elle avait quitté Paris pour Baden. Son nom parut bientôt dans un article signé de ce même M. Édouard. On y voyait percer, à travers l'enjouement habituel du style, certaines commisérations affectueuses qui fit éprouver à Fiodor Ivanovitch un sentiment de dégoût. Il apprit ensuite qu'il était père d'une fille. Au bout de 2 mois, son intendant lui annonça que Varvara Pavlovna avait réclamé le premier trimestre de sa pension. Des bruits de plus en plus fâcheux commençaient à se répandre, et enfin tous les journaux se firent l'écho d'une histoire tragicomique où sa femme jouait un rôle peu honorable. C'en était fait, Varvara Pavlovna était devenue une célébrité. Lavretsky cessa de s'occuper d'elle, mais il lui en coûta beaucoup. Il était quelquefois saisi d'un désir si ardent de la revoir qu'il eût tout donné, qu'il lui eût pardonné peut-être pour entendre encore sa voix caressante et sentir sa main dans les siennes. Cependant, le temps réclamait ses droits. Il n'était pas né pour souffrir. Sa nature vigoureuse prit le dessus. Il s'expliqua alors bien des choses. Le coup même qu'il avait frappé ne lui semblait plus aussi imprévu. Il comprit sa femme. On ne connaît bien ceux avec lesquels on vit habituellement que lorsqu'on en est éloigné. Il put se remettre à l'étude, quoique ce ne fût plus avec la même ardeur. Le scepticisme auquel il était préparé, tant par l'expérience de sa vie que par l'éducation qu'il avait reçue, s'empara définitivement de son âme. Il devint indifférent à tout. 4 ans se passèrent ainsi, et il se sentit alors la force de retourner dans sa patrie et de revoir les siens. Il ne s'arrêta ni à Pétersbourg ni à Moscou, et arriva dans la ville d'O où nous l'avons laissé, et où nous prions le lecteur bienveillant de retourner maintenant avec nous. Le lendemain du jour dont nous avons parlé, Lavretsky entrait vers 10 heures dans la maison Kalitine. Il rencontra Lise en chapeau et les mains gantées. « Où allez-vous ? » lui demanda-t-il. « À la messe, c'est dimanche aujourd'hui. Vous avez donc l'habitude d'aller à la messe ?» Lise le regarda avec étonnement, sans répondre. « Pardonnez-moi, reprit Lavretsky, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis venu prendre congé de vous. Je pars dans 1 heure pour la campagne. » « Ce n'est pas loin d'ici ?» demanda Lise. « Oh, 25 verstes !» En ce moment parut sur le seuil de la porte Lenotchka, accompagnée d'une servante. « Vous ne nous oublierez pas, n'est-ce pas ?» dit Lise en descendant les marches du perron. « Ne m'oubliez pas non plus !» « Et puis, écoutez, ajouta-t-il, vous allez à la messe, priez aussi pour moi !» Lise s'arrêta et se tournant vers lui. « Volontiers, dit-elle en le regardant en face, je prierai aussi pour vous. Allons, Lenotchka !» Au salon, Lavretsky trouva Maria Dmitrievna toute seule. Elle sentait l'eau de Cologne et la menthe, et elle disait avoir souffert de la tête et avoir passé une nuit agitée. Elle le reçut avec son amabilité langoureuse, et sa langue se délia peu à peu. N'est-ce pas, lui demanda-t-elle, que Vladimir Nikolaïevitch est un jeune homme très agréable? Qui est ce Vladimir Nikolaïevitch? Mais Panchine, celui qui était hier ici, vous lui avez beaucoup plu. Je vous dirai en secret, mon cher cousin, qu'il est amoureux fou de ma Lise. « Eh bien, il est de bonne famille, il a une bonne place, de l'esprit. De plus, il est gentilhomme de la chambre. Et si telle est la volonté de Dieu, moi, comme mère de famille, j'en serais ravi. Notre responsabilité est certainement bien grande. Le bonheur des enfants dépend des parents. Et il faut avouer que jusqu'ici, bien ou mal, c'est moi seul, tel que vous me voyez, qui élevait les enfants. » Et me suis occupé de leur éducation. Derrière moi encore, j'ai fait venir une gouvernante de chez Madame Bulous. Et Maria Dmitrievna se lança dans l'énumération de ses soins, de ses efforts, de ses sentiments maternels. Lavretsky l'écoutait en silence et tournait son chapeau dans ses mains. Son regard froid et pesant troubla la dame au milieu de son quinquet. « Et comment trouvez-vous Lise ?» demanda-t-elle. Oh, Lizaveta Mikhailovna est une charmante jeune fille, répondit Lavretsky. Puis il se leva, salua et entra chez Marfa Timofievna. Maria Dmitrievna le suivit d'un regard mécontent. Quel loup de mer, quel rustre, pensa-t-elle. Oh, je m'explique maintenant que sa femme ne lui soit pas restée fidèle. Marfa Timofievna était établie dans sa chambre, entourée de son état-major, qui se composait de 5 êtres, presque tous également chers à son cœur. Un rouge-gorge savant, affliché d'un goitre qu'elle avait pris en affection depuis qu'il ne pouvait plus ni siffler ni tirer son seau d'eau. Roska, un petit chien craintif et doux. Matros, un chat de la plus méchante espèce, puis une petite fille brune et très remuante d'environ 9 ans, aux grands yeux et au nez pointu, qu'on appelait la petite Chourovchka, et enfin Nastasia Karponov-Garkov, personne âgée d'environ 55 ans, affublée d'un bonnet blanc et d'une petite kazavika brune sur une robe de couleur sombre. La petite Chourovchka était de basse bourgeoisie et orpheline. Marfa Timofievna l'avait recueillie chez elle par pitié, ainsi que Roska. Elle les avait trouvés dans la rue. Tous deux étaient maigres et affamés, tous deux trempés par la pluie d'automne. Personne ne réclama le petit chien. Quant à la petite fille, son oncle, le cordonnier ivrogne, qui n'avait pas de quoi manger lui-même et qui battait sa nièce au lieu de la nourrir, la céda de grand cœur à la vieille dame. Enfin, Marfa Timofievna avait fait la connaissance de Nastasia Karpovna dans un couvent où elle était allée en pèlerinage. Elle plut à Marfa Timofievna parce qu'elle priait Dieu de bon appétit, selon la pittoresque expression de la bonne dame. Celle-ci l'avait abordée en pleine église et l'avait invitée à venir prendre une tasse de thé. Depuis ce jour, elles étaient devenues inséparables. Nastasia Karpovna était de petite noblesse, veuve et sans enfant. Elle avait le caractère le plus gai et le plus accommodant. Une tête ronde et grise, des mains blanches et douces, une figure avenante, malgré ses traits un peu gros, et un nez épaté de forme assez comique. Elle professait un culte pour Marfa Timofievna, qui de son côté l'aimait infiniment, ce qui ne l'empêchait pas de la taquiner de temps en temps sur la sensibilité de son cœur. Car elle avait un faible pour les jeunes gens, et la plaisanterie la plus innocente la faisait rougir comme une petite fille. Tout son avoir consistait en 1200 roubles assignats. Elle vivait aux frais de Marfa Timofievna, mais sur un certain pied d'égalité. Marfa Timofievna n'aurait toléré aucune servilité auprès de sa personne. « Ah, Fédia !» fit-elle dès qu'elle aperçut Théodore. « Tu n'as pas vu ma famille hier soir ? Ah ben, admire-la maintenant ! Ah, nous voilà tous réunis pour le thé. C'est le second, celui des jours de fête. Tu peux caresser tout le monde, hein? Seulement la petite Chourovchka ne se laissera pas faire, et le chat t'égratignera. Tu pars aujourd'hui? Aujourd'hui même. Lavretsky s'assit sur une petite chaise basse. Oh, j'ai déjà fait mes adieux à Maria Dmitrievna. J'ai même vu Lizaveta Mikhailovna. Oh, tu peux la nommer Lise tout court, mon père. Elle n'est pas Mikhailovna pour toi. Reste donc tranquille, tu vas casser la chaise de la petite Chourovchka. Je l'ai vue aller à la messe. Est-ce qu'elle est dévote? Oh oui, Lydia, oh bien plus que nous ne le sommes à tous deux. N'êtes-vous donc pas pieuse aussi? Dit Nastasia Karpovna en sifflotant. Si vous n'êtes pas encore allée à la première messe, vous irez à la dernière. Oh, ma foi, non, tu iras toute seule. Oh, je deviens trop paresseuse, ma mère, je me gâte en prenant trop de thé. Elle le tutoyait, Nastasia Karpovna, quoiqu'elle la traitât d'égal à égal. Mais ce n'était pas pour rien qu'elle était une Pestov. Trois Pestov sont écrits sur le livre commémoratif de Jean le Terrible. Marfa Timofievna le savait. Dites-moi, je vous prie, reprit Avletsky, Maria Dmitrievna vient de me parler de ce monsieur, enfin, comment se nomme-t-il, Panchine, je crois. Quel homme est-ce? Oh, Dieu, quel bavarde, grommela la Marfa Timofievna. Je suis sûr qu'elle t'a dit, sous le sceau du secret, qu'il rôde en prétendu autour de sa fille. Ce n'est pas assez pour elle, à ce qu'il paraît, d'en chuchoter avec son fils de prêtre. Non, cela ne lui suffit pas. Or, rien n'est encore fait cependant, et grâce à Dieu, mais il faut qu'elle bavarde. Et pourquoi grâce à Dieu? Demanda Lavalevski. Ben, parce que le jeune homme ne me plaît pas. Il n'y aurait pas lieu de se réjouir. Il ne vous plaît pas? Non, ne peut pas séduire tout le monde. N'est-ce pas assez que Nastasia Karpovna soit amoureuse? Oh, pouvez-vous dire cela? S'écria la pauvre veuve tout effarée. Ne craignez-vous pas Dieu? Et une rougeur soudaine se répandit sur son visage et sur son cou. Et il le sait bien, le fripon, continua Marfa Timofievna. Il sait bien comment la captiver. Il lui a fait cadeau d'une tabatière. Fédia, demande-lui une prise. Tu verras quelle belle tabatière. Sur le couvercle est peint un hussard à cheval. Oh, tu ferais bien mieux, ma chère, de ne pas chercher à le justifier. Nastasia Karpovna ne se défendit plus que par un geste de dénégation. Et plaît-il aussi à Lise? Demanda Levreski. Oh, il paraît lui plaire. Du reste, Dieu le sait. L'âme d'autrui, vois-tu, c'est une forêt obscure, surtout l'âme d'une jeune fille. Tiens, ne veux-tu pas approfondir le cœur de la petite Chourochka? Mais pourquoi donc se cache-t-elle? Ne s'en va-t-elle pas depuis que tu es entrée? La petite fille laissa échapper un éclat de rire, contenu depuis longtemps, et prit la fuite. Lavretsky se releva. Oui, dit-il lentement, qui peut deviner ce qui se passe dans le cœur d'une jeune fille? Et il fit mine de se retirer. Eh bien, quand te reverrons-nous? Demanda Marfa Timofievna. Ben, c'est selon, ma tante, je ne vais pas bien loin. Oui, tu vas à Vassilievskoye. Tu ne peux pas te fixer à Lavretsky, cela te regarde. « Seulement va saluer la tombe de ta mère et aussi celle de ta grand-mère. Tu as acquis tant de savoir à l'étranger. Et qui sait pourtant, peut-être sentiront-elles au froid de leur tombeau que tu es venu les voir. Et n'oublie pas, mon cher, de faire dire une messe pour le repos de l'âme de Glafira Petrovna. Voici un rouble argent, prends-le. C'est moi qui veux faire dire cette messe. » De son vivant, je ne l'aimais pas, mais il faut lui rendre justice. C'était une fille de caractère et d'esprit, et puis elle ne t'a pas oublié. Ah, et maintenant que Dieu te conduit, je finirai par t'ennuyer. Et Marfa Timofievna embrassa son neveu. Oh, quant à Lise, elle n'épousera pas Panchine, ne t'en inquiète pas. Ce n'est pas un mari de cette espèce qu'il lui faut. Mais je ne m'en inquiète nullement, répondit Lavretsky en s'éloignant. 4 heures après, il était en route et son Talanta se roulait rapidement sur le chemin de traverse. Il y eut une grande sécheresse depuis 15 jours. Un léger brouillard répandait dans l'atmosphère une teinte laiteuse et enveloppait les forêts lointaines. On sentait s'exhaler comme une odeur de brûlé. De petits nuages foncés dessinaient leurs contours indécis sur le ciel d'un bleu clair. Un vent assez fort soufflait par bouffées sèches qui ne rafraîchissait point l'air. La tête appuyée contre les coussins de la voiture, les bras croisés sur sa poitrine, Lavretsky laissait errer ses regards sur les champs labourés qui se déroulaient devant lui en éventail, sur les cytis qui semblaient fuir, sur les corbeaux et les pies qui suivaient d'un œil bêtement soupçonneux l'équipage qui passait, et sur les longues raies semées d'armoises, d'absinthe et de sorbiers des champs. Il regardait l'horizon et cette solitude des steppes, si nues, si fraîches, si fertiles. Cette verdure, ces longs coteaux, ces ravins que couvrent les buissons de chênes nains, ces villages gris, ces maigres bouleaux. Enfin, tout ce spectacle de la nature russe qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, éveillait dans son cœur des sentiments à la fois doux et tristes, et tenait sa poitrine sous l'oppression d'un poids qui n'était pas sans charme. Ses pensées se succédaient lentement, mais leur contour était aussi vague que ceux des nuages qui erraient au-dessus de sa tête. Il évoquait le souvenir de son enfance, de sa mère, du moment où on l'avait apporté auprès d'elle à son lit de mort, et où, serrant sa tête contre son cœur, elle s'était mise d'une voix faible à se lamenter sur lui, puis s'était arrêtée en apercevant Glafira Petrovna. Il se souvint de son père, qu'il avait vu d'abord robuste, toujours mécontent, et dont la voix cuivrée résonnait à son oreille. Plus tard, vieillard aveugle, larmoyant, la barbe grise et malpropre. Il se souvint qu'un jour à table, dans les fumées du vin, le vieillard s'était mis à rire tout à coup et à parler de ses conquêtes, en prenant un air modeste et en clignant ses yeux privés de lumière. Il se souvint de barbe et ses traits se crispèrent comme chez un homme saisi d'une subite douleur. Il secoua la tête, puis sa pensée s'arrêta sur Lise. « Voilà, se dit-il, un être nouveau qui entre dans la vie. Ah, honnête jeune fille, quel sera son sort? Elle est jolie, son visage est pâle mais plein de fraîcheur, ses yeux sont doux, sa bouche sérieuse et son regard innocent. Quel dommage qu'elle soit un peu exaltée. Belle taille, des marches gracieuses et une voix si douce. » Je me plais à la voir quand elle s'arrête tout à coup, vous écoute attentivement sans sourire, puis s'absorbe dans sa pensée et rejette ses cheveux en arrière. Bon, vous le croyez aussi pensif, il n'est pas digne d'elle. Et pourtant, que lui manque-t-il? Mais à quoi vais-je rêver là? Elle ira par le chemin que suivent les autres. Mieux vaut dormir. Et Lavretsky ferma les yeux. Mais il ne put dormir et resta plongé dans cet état de torpeur mentale qui nous est si familière en voyage. Les images du passé continuèrent à monter lentement dans son âme, se mêlant et se confondant avec d'autres tableaux. Lavretsky se mit, oh Dieu sait pourquoi, à penser à Sir Robert Peel, à l'histoire de France, à la victoire qu'il aurait remportée s'il eût été général. Il croyait entendre le canon et les cris de guerre. Sa tête glissait de côté, il ouvrait les yeux. Les mêmes champs, le même paysage des steppes, le fer usé des chevaux brillait tour à tour à travers les tourbillons de poussière. La chemise jaune à parements rouges du Yomchik s'enflait au vent. Je me reviens, joli garçon, chez moi, se disait Théodore. Cette réflexion lui tourna l'esprit et il cria « Et en avant !» Puis s'enveloppant de son manteau, il s'avança davantage encore dans les coussins. Le Tarantas fit un brusque chaos. Lavretsky se souleva et ouvrit de grands yeux. Devant lui, sur la colline, s'étendait un petit village. À droite, on voyait une vieille maison seigneuriale dont les volets étaient fermés et dont le perron inclinait de côté. De la porte jusqu'au bâtiment, la vaste cour était remplie d'orties aussi vertes et aussi épaisses que du chanvre. Là se dressait aussi un petit magasin à blé, en chêne, encore bien conservé. C'était Vassilievskoïe. Le yamchik décrivit une courbe vers la porte cochère et arrêta les chevaux. Le domestique de Lavretsky se leva sur le siège et s'apprêtant à sauter en bas, il appela du monde. On entendit un aboiement sourd et rauque, mais on ne vit pas le chien. Le domestique appela de nouveau. L'aboiement se répéta et au bout de quelques minutes accourut, sans qu'on vît d'où il sortait, un homme en cafetan de Nankin, la tête blanche comme la neige. Il couvrit ses yeux pour les abriter des rayons du soleil et regarda un moment le Tarantas. Puis, laissant retomber ses deux mains sur ses cuisses, il piétina quelques instants sur place et se précipita enfin pour ouvrir la porte cochère. Le Tarantas entra dans la cour, faisant bruire l'ortie sous ses roues, et s'arrêta devant le perron. L'homme à la tête blanche, vieillard encore alerte, se tenait déjà, les jambes écartées de travers sur la dernière marche. Il décrocha le tablier de la voiture d'un mouvement saccadé, et, tout en aidant son maître à descendre, il lui baisa la main. « Bonjour, bonjour, mon ami, » dit Lavretsky. « Tu t'appelles Antoine, n'est-ce pas ? Tu vis donc encore ?» Le vieillard s'inclina en silence et courut chercher les clés. Pendant ce temps, le yamchik restait immobile, penché de côté, regardant la porte fermée, tandis que le laquais de Lavretsky garde la pose pittoresque qu'il avait prise en sautant à terre, une main appuyée sur le siège. Le vieillard apporta les clés, il se tordait comme un serpent et se donnait beaucoup de peines inutiles en levant bien haut les coudes pour ouvrir la porte. Puis il se plaça de côté et fit de nouveau un profond salut. « Me voici donc chez moi, me voici de retour », pensa Lavretsky en entrant dans un petit vestibule, tandis que les volets s'ouvraient avec fracas les uns après les autres, et que le jour pénétrait dans les chambres désertes. La petite maison que Lavretsky allait habiter, et où 2 ans auparavant était morte Glafira Petrovna, avait été construite au dernier siècle en beau bois de sapin. Elle paraissait ancienne, mais elle pouvait se conserver encore une 50aine d'années et plus. Lavretsky parcourut toutes les chambres, et au grand chagrin des vieilles mouches indolentes, immobiles, blanchâtres sous leur poussière, qui restaient attachées au plafond, il fit partout ouvrir les fenêtres, closes depuis la mort de Glafira Petrovna. Tout dans la maison était resté dans le même état. Les petits divans du salon, sur leurs pieds grêles, tendus de damas gris, lustrés, usés et défoncés, rappelait le temps de l'impératrice Catherine. Dans le salon, on voyait le fauteuil favori de la maîtresse de la maison, avec son dossier droit et haut contre lequel elle avait l'habitude de s'appuyer dans sa vieillesse. Au mur principal était accroché un ancien portrait de l'aïeul de Fédor, André Lavretsky. Son visage sombre et bilieux se détachait à peine du fond noirci et écaillé. Ses petits yeux méchants lançaient des regards moroses sous leurs paupières pendantes et gonflées. Ses cheveux noirs, sans poudre, se dressaient en brosse au-dessus d'un front sillonné de rides. À l'un des angles du portrait pendait une couronne d'immortels couverte de poussière. « C'est Glafira Petrovna, » dit Antoine, « qui a dédié la tressée de ses propres mains. » Dans la chambre à coucher s'élevait un lit étroit, sous un rideau d'étoffe rayée, ancienne mais solide. Une pile de coussins à demi fanés et une mince couverture ouatée étaient étendues sur le lit, au-dessus duquel pendait une image reproduisant la présentation de la Vierge, que la vieille demoiselle, expirant seule et oubliée, avait pressée à ses derniers moments sur ses lèvres déjà glacées. Auprès de la fenêtre se trouvait une toilette en marqueterie ornée de cuivre et surmontée d'un miroir doré et noirci. Une porte donnait dans l'oratoire, dont les murs étaient nus, et où l'on apercevait dans un coin une armoire remplie d'images. Un petit tapis usé et couvert de taches de cire couvrait la place où Glafira Petrovna s'agenouillait. Antoine alla avec le laquais de Lavretsky ouvrir l'écurie et la remise. À sa place parut une vieille femme presque aussi âgée que lui. Sa tête branlante était couverte d'un mouchoir qui descendait jusqu'aux sourcils. L'habitude de l'obéissance passive se peignait dans ses yeux et il s'y joignait une sorte de compassion respectueuse. Elle s'approcha de Lavretsky pour lui baiser la main et s'arrêta à la porte comme pour attendre ses ordres. Il avait complètement oublié son nom. Il ne se souvenait même pas de l'avoir jamais vue. Elle s'appelait Apraxeia. 40 ans auparavant, Glafira Petrovna l'avait renvoyée de la maison et lui avait ordonné de garder la basse-cour. Du reste, elle parlait peu, paraissait tombée en enfance et n'avait conservé qu'un air d'aveugle obéissance. Outre ces deux vieillards et trois gros enfants en longue chemise, petit-fils d'Antoine, vivait encore dans la maison un paysan manchot et impotent qui gloussait comme un coq de bruyère. Le vieux chien infirme qui avait salué le retour de Lavretsky n'était guère plus utile au logis. Il y avait 10 ans qu'il était attaché avec une lourde chaîne achetée par ordre de Glafira Petrovna, et c'est à peine s'il avait la force de se mouvoir et de traîner ce fardeau. Après avoir examiné la maison, Lavretsky descendit au jardin et en fut satisfait, quoiqu'il fût tout rempli de mauvaises herbes, de buissons, de groseilliers et de framboisiers. Il s'y trouvait de beaux ombrages, de vieux tilleuls remarquables par leur développement gigantesque et par l'étrange disposition de leurs branches. On les avait plantés trop plats les uns des autres, ils avaient été taillés et naguère, il y avait 100 ans peut-être. Le jardin finissait un petit étang clair borné de joncs rougeâtres. Les traces de la vie humaine s'effacent vite. La propriété de Glafira Petrovna n'avait pas eu le temps de devenir déserte, et déjà, elle paraissait plongée dans ce sommeil qui enveloppe tout ce qui est à l'abri de l'agitation humaine. Fiodor Ivanovitch parcourut aussi le village. Les paysannes le regardaient du seuil de leurs isbas, la joue appuyée sur la main. Les paysans saluaient de loin. Les enfants s'enfuyaient. Les chiens aboyaient avec indifférence. Bientôt il eut faim, mais il n'attendait ses serviteurs et son cuisinier que vers le soir. Les provisions n'étaient pas encore arrivées de Lavretsky. Il fallut s'adresser à Antoine. Oh, celui-ci fit aussitôt tous les arrangements. Il prit une vieille poule, la mit à mort et la pluma. Apraxéia lui fit subir l'opération d'un véritable lessivage et la mit à la casserole. Lorsqu'elle fut cuite, Antoine couvrit et disposa la table, plaça devant le couvert une salière en métal noirci à trois pieds et une carafe taillée à goulot étroit et à bouchon rond. Il annonça ensuite d'une voix chantante à Lavretsky que le dîner était servi et se plaça lui-même derrière la chaise du seigneur, la main droite enveloppée d'une serviette. Le vieux bonhomme exhalait une odeur de cyprès. Lavretsky goûta la soupe et en retira la poule, dont les tendons se dissimulaient mal sous la peau dure et coriace. La chair avait la saveur d'un morceau de bois. Après avoir ainsi dîné, Lavretsky manifesta le désir de prendre du thé si... « Oh, je vais vous en servir un instant !» interrompit le vieillard. Et il tint parole. On trouva une pincée de thé enveloppée d'un morceau de papier rouge. On découvrit un samovar, petit à la vérité, mais qui fonctionnait d'une manière fort bruyante. On trouva même quelques pauvres morceaux de sucre à moitié fondu. Lavretsky prit son thé dans une grande tasse qui lui rappelait un souvenir d'enfance et sur laquelle étaient peintes des cartes à jouer. On ne la servait qu'aux étrangers, et maintenant c'était lui, étranger à son tour, qui buvait dans cette tasse. Vers le soir arrivèrent les serviteurs. Lavretsky ne voulut pas se coucher dans le lit de sa tante et s'en fit dresser un dans la salle à manger. Il éteignit la bougie et regarda longtemps et tristement autour de lui, en proie à ce sentiment désagréable qu'éprouve tout ce qui passe une première nuit dans un endroit depuis longtemps inhabité. Il lui semblait que l'obscurité qui l'entourait de toutes parts ne pouvait s'habituer à un nouveau venu, que les murs mêmes de la maison s'étonnaient de sa présence. Il poussa un soupir, tira sa couverture sur lui et finit par s'endormir. Antoine resta le dernier sur pied. Il fit deux fois le signe de la croix et se mit à causer avec Apraxéia et à lui communiquer à voix basse ses doléances. Ni l'un ni l'autre n'avait pu s'attendre à voir le maître s'établir à Vassilievskoïe, lorsqu'il avait à deux pas un si beau domaine avec une maison si confortable. Il ne se doutait pas que c'était justement cette maison qui était odieuse à Lavretsky, parce qu'elle lui rappelait d'anciens souvenirs. Après avoir chuchoté longtemps, Antoine prit sa baguette pour frapper la plaque de fer depuis longtemps muette qui était accrochée au magasin à blé. Ensuite, il s'accroupit dans la cour sans même couvrir sa pauvre tête blanche. La nuit de mai était calme et sereine. Le vieillard dormit d'un sommeil doux et paisible. Le lendemain, Lavretsky se leva d'assez bonne heure, causa avec le starosta, visita la grange, fit délivrer de sa chaîne le chien de la basse-cour, qui poussa bien quelques cris, mais ne songea même pas à profiter de sa liberté. Rentré à la maison, Théodore s'abandonna à une espèce d'engourdissement paisible qui ne le quitta pas de toute la journée. « Me voilà tombé au fond de la rivière !» se dit-il à plusieurs reprises. Il était assis, immobile auprès de la fenêtre, et paraissait prêter l'oreille au calme qui régnait autour de lui et aux bruits étouffés qui venaient du village solitaire. Une voix grêle et aiguë fredonne une chanson derrière les grandes orties. Le cousin qui bourdonne semble lui faire écho. La voix se tait. Le cousin continue de bourdonner. Au milieu du murmure importun et monotone des mouches, On entend le bruit du bourdon qui heurte de la tête contre le plafond. Le coq chante dans la rue en prolongeant sa note finale. Puis c'est la télègue dont on entend les cahots ou une porte cochère qui crie sur ses gonds. Une femme passe et prononce quelques mots d'une voix glapissante. Hey, « Hé, mon petit loulou !» dit Antoine à une petite fille de 2 ans qu'il porte sur les bras. « Apporte le kvass !» dit encore la même voix de femme. Et tout cela est suivi d'un morne silence. Plus un souffle, plus le moindre bruit. Le vent n'agite même pas les feuilles. Les hirondelles silencieuses glissent les unes après les autres, effleurant la terre de leurs ailes, et le cœur s'attriste de les voir ainsi voler en silence. « Me voilà donc au fond de la rivière, » se dit encore Lavretsky. Et toujours en tout temps, la vie est ici triste et lente. Ah, celui qui entre dans son cercle doit se résigner. Ici, point de trouble, point d'agitation. Il n'est permis de toucher au but qu'à celui qui fait tout doucement son chemin, comme le laboureur qui trace son sillon avec le soc de sa charrue. Mais quelle vigueur et quelle santé dans cette paix et dans cette inaction. Là, sous la fenêtre, le chardon trapu sort de l'herbe épaisse. Au-dessus, la livèche étend sa tige grasse, et plus haut encore, les larmes de la Vierge suspendent leur grappe rosée. Puis au loin, dans les champs, on voit blanchir en ondulant le seigle et l'avoine qui commencent à monter en épi, et les feuilles s'étendent sur les arbres, comme chaque brin d'herbe sur sa tige. Oh, c'est à l'amour d'une femme que j'ai immolé mes meilleures années. Eh bien, que l'ennui me rende la raison, qui me rende la paix de l'âme, et m'apprenne à agir désormais sans précipitation. Et le voilà qui s'efforce de se plier à cette vie monotone et d'étouffer tous ses désirs. Il n'a plus rien à attendre, et pourtant, il ne peut se défendre d'attendre encore. De toutes parts, le calme l'envahit. Le soleil s'incline doucement sur le ciel bleu et limpide. Les nuages flottent lentement dans les terres azurées. Ils paraissent avoir un but et savoir où ils vont. En ce moment, sur d'autres points de la terre, la vie roule en bouillonnant ses flots écumants et tumultueux. Ici, elle s'épanche silencieuse comme une eau dormante. Et Lavretsky ne put s'arracher avant le soir à la contemplation de cette vie qui s'écoulait ainsi. Les tristes souvenirs du passé fondaient dans son âme comme la neige du printemps. Et, chose étrange, jamais il n'avait ressenti aussi profondément encore l'amour du sol natal. Au bout de 15 jours, Fiodor Ivanovitch avait mis en ordre la petite maison de Glafira Pietrovna. La cour et le jardin furent nettoyés. On apporta de l'avriki, des meubles confortables, de la ville, du vin, des livres, des journaux. L'écurie se remplit de chevaux. En un mot, Fiodor Ivanovitch monta complètement son ménage et se mit à vivre, moitié en propriétaire, moitié en cénobite. Ses jours s'écoulaient d'une manière uniforme, et quoiqu'il ne vît personne, il ne s'ennuyait pas. Il s'occupait d'agronomie avec ardeur et sérieusement explorait à cheval les environs ou prenait un livre. Néanmoins, il trouvait plus de charme à écouter le récit du vieil Antoine. D'ordinaire, Lavretsky s'asseyait à la fenêtre avec sa pipe et une tasse de thé refroidie. Antoine, les mains croisées derrière le dos, se plaçait debout à la porte et commençait ses lentes narrations sur les temps anciens, sur les temps fabuleux où l'avoine et le seigle ne se vendaient pas au boisseau mais dans de grands sacs à raison de 2 ou 3 copecks le sac. À cette époque, on voyait de tous côtés, même tout près de la ville, des forêts impénétrables et des steppes non défrichées. « Maintenant, oh, disait d'un accent de regret l'octogénaire, on a si bien labouré et taillé partout qu'on ne sait plus où passer. » Et Antoine se plaisait aussi à raconter divers détails sur son ancienne maîtresse, Glafia Petrovna, combien elle était judicieuse et économe, comment un certain monsieur, un jeune voisin, avait voulu se faufiler dans ses bonnes grâces et avait commencé à venir souvent dans la maison, à ce point que la bonne demoiselle mettait pour lui son bonnet des grands jours avec des rubans massacas et sa robe jaune en trutru levantine. Mais comment ensuite, étant irrité contre ce monsieur son voisin, à cause d'une question inconvenante, vous devez, avait-il dit, posséder mademoiselle un bon capital. Elle lui avait refusé sa porte. Et comment dès lors elle avait donné l'ordre que tout jusqu'au moindre chiffon fut remis après sa mort à Fiodor Ivanovitch. Effectivement, Lavretsky avait trouvé intacte toute la défroque de sa tante, sans en excepter le fameux bonnet au ruban massacas et la robe de trutru levantine. Quant aux anciens papiers et aux documents curieux sur lesquels comptait Lavretsky, il ne trouva rien qu'un vieux livre où son grand-père, Pierre Andreevitch, inscrivait des notes du genre de celle-ci. Solennité dans la ville de Saint-Pétersbourg, à l'occasion de la pacification conclue avec l'Empire turc par son Excellence le prince Alexandre Alexandrovitch Prozorovski, ou bien recette d'une décoction pour la poitrine, avec l'observation « Cette ordonnance a été communiquée à la générale Praskovia Fedorovna Soltikov par Fyodor Skrenstievitch, archiprêtre de l'église de la Très-Sainte Trinité, source de la vie éternelle. » On y trouvait aussi des nouvelles politiques de cette espèce. Il n'est plus question des tigres de français. Mais tout à côté, on annonce dans la Gazette de Moscou le décès de M. le Premier Major, Mikhail Petrovitch Korsnichev. Ne serait-ce pas le fils de Pierre Vassilievitch? Lavretsky trouva aussi quelques vieux calendriers, quelques livres d'explication des songes, ainsi que l'ouvrage mystique de M. Ambodix. Les symboles et les emblèmes réveillèrent en lui des souvenirs endormis depuis nombre d'années. Dans la table de toilette de Glafira Petrovna, il découvrit tout au fond d'un tiroir un petit paquet attaché avec un ruban noir et cacheté avec de la cire de la même couleur. Dans ce paquet se trouvaient face à face 2 portraits, l'un au pastel de son père dans sa jeunesse, sa chevelure soyeuse onduillant sur le front, le regard long et pensif, la bouche entr'ouverte, et l'autre presque effacé, d'une femme pâle en robe blanche, une rose blanche à la main. C'était sa mère. Glafira Petrovna n'avait jamais consenti à faire son propre portrait. « Voyez-vous, Fiodor Ivanovitch, disait Antoine à Lavretsky, quoique à cette époque je ne vécusse pas encore dans les appartements du Seigneur, je me souviens bien de votre aïeul, André Apanassievitch. Quand il termina ses jours, j'étais un gamin de 17 ans. Je le rencontrai une fois au jardin, j'en eus le frisson d'épouvante. Cependant, il ne me fit rien, me demanda seulement mon nom, et m'envoya chercher un mouchoir de poche. Oh, c'était un seigneur, celui-là, il n'y a pas à dire. Il reconnaissait personne au-dessus de lui. C'est qu'il avait, comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur, votre aïeul, un mabulette merveilleux. Un moine du Mont Athos lui avait donné, et il avait dit le moine, « Je te le donne pour ta cordialité, porte-le et crains pas le jugement de personne. » Il est vrai de dire aussi, monsieur, que c'était des temps à part. Ce que le Seigneur se mettait en tête, il le faisait. Lorsqu'un gentilhomme s'avisait de le contredire, votre aïeul se contentait de le regarder et de dire « Tu nages à la surface. » C'était son dicton favori. Et il vivait, monsieur votre aïeul, de bienheureuse mémoire, dans des appartements petits et dans une maison de bois. Et ce qu'il a laissé après lui de capital, d'argenterie, d'effet, toutes les caves en étaient pleines. Quel administrateur! Le petit carafon dont vous avez bien voulu faire l'éloge lui a appartenu. Il y mettait son eau de vie. Et tenez votre grand-père, Pierre Andrievitch. C'était pourtant bâti une maison de pierre, mais il n'a pas amassé de biens. Tout s'en est allé à volo. Il ne vivait pas aussi grandement que son père, et il ne se procurait aucun amusement. Et pourtant, tout son argent est parti, et il n'a rien laissé pour qu'on se souvienne de lui, pas même une cuillère en argent. Il faut encore rendre grâce à Clavira Petrovna de ce qu'elle a eu soin. Est-il vrai, interrompit Lavretsky, qu'on avait nommé la vieille sorcière? Ouais, il fallait connaître ce qu'il avait appelé ainsi, répliquait Antoine. À propos, monsieur, s'enhardit un jour à demander le vieillard, où est notre dame? Où est-elle son domicile maintenant? Ah, je me suis séparé de ma femme, dit Lavretsky avec effort. Je te prie de ne pas me questionner sur elle. J'entends, répliqua tristement le vieillard. Au bout de 3 semaines, Lavretsky se rendit à cheval à Haut chez les Kalitin, où il passa la soirée. Lem s'y trouvait. Il plut beaucoup à Lavretsky. Celui-ci, grâce à son père, ne jouait aucun instrument. Toutefois, il aimait la musique avec passion, la musique sérieuse, la musique classique. Panchine était absent. Le gouverneur l'avait envoyé hors de la ville. Lise joua seule et avec beaucoup de précision. Lem s'anima, s'électrisa, prit un rouleau de papier et battit la mesure. Maria Dmitrievna se mit d'abord à rire en le regardant, puis alla se coucher. Elle prétendait que Beethoven agitait trop ses nerfs. À minuit, Lavretsky reconduisit Lem jusqu'à son logement, et il y resta jusqu'à 3 heures du matin, et Lem se laissa aller à causer. Il s'était redressé, ses yeux s'étaient agrandis et étincelaient, ses cheveux même s'étaient levés sur son front. Il y avait si longtemps que personne ne lui avait témoigné de l'intérêt. Et Lavretsky semblait, par ses questions, lui marquait une sollicitude sincère. Le vieillard en fut touché. Il finit par montrer sa musique à son hôte, lui joua et lui chanta même, d'une voix éteinte, quelques fragments de ses compositions. Entre autres, toute une ballade de Schiller, Friedelin, qu'il avait mise en musique. Lavretsky la loua fort, se fit répéter quelques passages et, en partant, engagea le musicien à venir passer quelques jours chez lui à la campagne. Lem, qui le reconduisit jusqu'à la rue, y consentit sur le champ et lui serra chaleureusement la main. Resté seul, à l'air humide et pénétrant qu'amènent les premières lueurs de l'aube, il s'en retourna, les yeux à demi clos, le dos voûté, et regagna à petits pas sa demeure comme un coupable. Ich bin voll nicht klug, je ne suis pas dans mon bon sens, murmura-t-il en attendant dans un lit dur et court. Quand quelques jours après, Lavretsky vint le chercher en calèche, il essaya de se dire malade. Mais Fiodor Ivanovitch entra dans sa chambre et finit par le persuader. Ce qui agit le plus sur Lem, ce fut cette circonstance que Lavretsky avait fait venir pour lui un piano de la ville. Tous deux se rendirent chez les Kalitine et y passèrent la soirée, mais d'une manière moins agréable que quelques jours auparavant. Panchine s'y trouvait. Il parla beaucoup de son excursion et se mit à parodier d'une manière très comique les divers propriétaires qu'il avait vus. Lavretsky riait, mais Lem ne quittait pas son coin, se taisait et remuait les membres en silence comme une araignée. Il regardait d'un air sombre et concentré et ne s'anima que lorsque Lavretsky se leva pour prendre congé. Même en calèche, le vieillard continua à songer et persista dans sa boudeuse sauvagerie. Mais l'air doux et chaud, la brise, les ombres légères, le parfum de l'herbe et des bourgeons du bouleau, la lueur d'une lutte étoilée, le piétinement et la respiration des chevaux, toutes les séductions du printemps, de la route et de la nuit, descendirent dans l'âme du pauvre Allemand, et ce fut lui le premier qui rompit le silence. Il se mit à parler de musique, puis de Lise, puis de nouveau de musique. En parlant de Lise, il semblait prononcer les paroles plus lentement. Lavretsky dirigea la conversation sur ses œuvres, et, moitié sérieux, moitié plaisantant, lui proposa de lui écrire un libretto. « Un libretto ?» répliqua Lem. « Non, cela n'est pas pour moi. J'ai plus la vivacité d'imagination qu'il faut pour un opéra. J'ai déjà perdu mes forces, mais si je pouvais encore faire quelque chose, me contenterais d'une romance. Certainement, je voudrais de belles paroles. » Il se tut et resta longtemps immobile, les yeux attachés au ciel. « Par exemple, dit-il enfin, quelque chose dans ce genre, ô vous étoiles, ô pures étoiles. » Lavretsky se tourna légèrement vers lui et se mit à le considérer. « Ô vous étoiles, pures étoiles, » répéta Lem. Vous regardez de la même manière les innocents et les coupables, mais les purs de cœur seuls, ou en fout quelque chose dans ce genre, vous comprennent, c'est-à-dire non, on vous aime. Oh, dirais-je, je ne suis pas poète, c'est pas mon fait, mais quelque chose dans ce genre, quelque chose d'élevé. Clem renversa son chapeau sur sa nuque, et dans la demi-teinte de la nuit, sa figure semblait plus pâle et plus jeune. Et vous aussi, continua-t-il en baissant graduellement la voix, vous savez qui aime, qui sait aimer, parce que vous êtes pur, vous seul pouvez consoler. Non, non, je ne sais pas encore cela, je suis pas poète, murmura-t-il, mais quelque chose dans ce genre. « Je regrette de ne pas être non plus poète, » observa Lavretsky. « Vaine rêverie, » répliqua Lem. Et il se blottit dans le fond de la calèche. Il ferma les yeux comme s'il eût voulu dormir. Quelques instants s'écoulèrent. Lavretsky tendait l'oreille pour écouter. « Ô étoiles, pures étoiles, amour !» murmurait le vieillard. « Amour !» répéta en lui-même Lavretsky. Puis il devint rêveur et sentit son âme oppressée. « Mais vous avez fait une très bonne musique sur les paroles de Fridolin, Christopher Fiodorovitch, dit-il tout à coup à haute voix. « Mais quelle est votre pensée, ce Fridolin, après que le comte l'eut amené à sa femme? Devint-il immédiatement l'amant de cette dernière ?»« Oh, c'est vous qui pensez ainsi, » répliqua Lem, « parce que, vraisemblablement, l'expérience... » Il s'arrêta tout à coup et se détourna d'un air embarrassé. Lavretsky se prit à rire avec contrainte, mais se détourna aussi et porta ses regards vers la route. Les étoiles commençaient déjà à pâlir et le ciel blanchissait quand la calèche s'arrêta devant le perron de la petite maison de Vassilievskoïe. Lavretsky conduisit son hôte jusqu'à la chambre qui lui était destinée, revint dans son cabinet et s'assit devant la fenêtre. Au jardin, le rossignol adressait son dernier chant à l'aurore. Lavretsky se souvint que dans le jardin des Kalitines, le rossignol chantait aussi. Il se souvint du mouvement lent des yeux de Lise lorsqu'ils se dirigèrent vers la sombre fenêtre par laquelle les chants pénétraient dans la pièce. Sa pensée s'arrêta sur elle et son cœur reprit un peu de calme. « Pure jeune fille » prononça-t-il à demi-voix. « Pures étoiles » ajouta-t-il avec un sourire. Puis elle alla se coucher en paix. Lem, de son côté, resta longtemps assis sur son lit, un papier de musique sur les genoux. Il semblait qu'une mélodie inconnue et douce allait jaillir de son cerveau. Brûlant, agité, il ressentait déjà la douceur enivrante de l'enfantement. Mais, hélas, il attendit en vain. « Ni poète, ni musicien, » murmura-t-il. Et sa tête fatiguée s'affaissa pesamment sur l'oreiller.